Eh bien, chers amis, je vais à mon tour vous parler de certains films dont les grandes pointures ont déjà parlé. Mais comme moi, je ne suis qu'une petite pointure en la matière, je vais essayer de vous en parler à travers le regard du spectateur de l'époque. Parce que j'ai un avantage sur Alain, c'est que moi, j'avais plus de 18 ans. Allez, à l'époque, c'était un avantage. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'avais plus de 18 ans. Et donc, tous les films de Christophe, dans lesquels Christopher Lee est Dracula, je les ai vus plus ou moins, vous allez vous en rendre compte, au moment de leur sortie. Et je vais vous dire comment je les ai vus. Parce que c'est vrai que Christopher Lee est le Dracula des années 60-70, comme Bela Lugosi était le Dracula des années 30. Il y a d'ailleurs une certaine synchronicité entre eux, puisque Bela Lugosi a aussi joué le rôle du monstre de Frankenstein. On ne le sait pas en général, on sait que après avoir tourné dans le Todd Browning, Bela Lugosi aurait refusé le rôle dans le Frankenstein de James Whale, mais en réalité, il a joué le monstre de Frankenstein, Bela Lugosi, en 1942 dans un des nanars de la Universal de l'époque, qui était, je crois, Frankenstein contre le loup-garou. Bon. Et Christopher Lee, on le sait, avait commencé sa carrière en jouant Frankenstein en 1957 pour Terence Fisher. Et donc sa première interprétation de Dracula, comme on l'a déjà dit, c'est Le cauchemar de Dracula de Terence Fisher en 1958. Je ne vais citer les titres qu'en français, vous comprendrez vite pourquoi. Donc Le cauchemar de Dracula, bien curieusement je ne l'ai pas vu celui-là, pour la bonne raison qu'en 1958, je ne l'ai jamais vu, qu'en 1958 j'étais encore lycéen. J'étais à Limoux, Aude, sous-préfecture, 9 000 habitants, 20 km de Rennes-le-Château. La télévision n'arrivait pas. Il y avait trois cinémas qui donnaient chacun quatre séances hebdomadaires, une le samedi soir, une le dimanche soir et deux le dimanche après-midi. Et les films étaient diffusés, enfin, étaient projetés à Limoux en moyenne 2 ans après leur sortie à Paris. C'est ainsi que j'ai vu les 10 commandements de Cécile B2000 de 1956, je l'ai vu en 1960. Allez, bon. Donc, Le cauchemar de Dracula 1958, je ne l'ai pas vu. Et quand je suis arrivé dans une grande ville, à Toulouse, en 1961, ben là, on le projetait plus, évidemment. Donc, comme je ne suis pas porté sur le DVD, je n'ai de ce film que l'affiche, ou plus exactement la reproduction de l'affiche sur une carte postale. Elle est très verdâtre, très mort-vivant, et elle me sert de marque-page. Et donc, le premier que j'ai pu voir, c'était en 1966, c'était Dracula, Prince des Ténèbres. Alors, celui-là, il a été projeté à Toulouse dans un cinéma qui s'appelait Le Zigzag. Le Zigzag, dans le répertoire, n'était pas tellement orienté vers l'art et essai, vers le film intellectuel, vers le blockbuster, etc. D'ailleurs, ce cinéma a disparu aujourd'hui, mais il a fini sa carrière comme Cinéma X, genre Luxor. Et donc, à l'époque, il avait déjà la réputation d'être un peu sulfureux. C'est cette salle qui a projeté Le cauchemar de Dracula, qui a projeté Dracula, Prince des Ténèbres, et j'en ai gardé vraiment deux souvenirs précis. C'est d'abord au pré-générique le rappel du cauchemar de Dracula qui est bidouillé d'une façon incroyable. Parce que le Prince des Ténèbres est tourné en techniscope. Le techniscope, c'est un procédé particulier d'écran large, c'est celui de Sergio Leone. Et grosso modo, ça consiste à ne pas tourner en écran large, mais à fabriquer un format écran large au laboratoire. On tripote l'image sur la pellicule. Alors ça donne une image qui n'est pas très jolie, ça donne des choses assez compliquées, mais le cauchemar, lui, était format normal, 4 tiers. Donc il a fallu tripoter tout ça pour l'introduire dans une séquence pré-générique en écran large, ce qui fait que la séquence que Marc nous a passée tout à l'heure, dans Prince des Ténèbres, elle est entourée de deux écrans de fumée. Choses comme ça qui fument. Mais surtout, ce que j'ai retenu vraiment de Prince des Ténèbres, c'est dès la première séquence, où on est soi-disant dans les Carpates, ce sont les Carpates représentées par les décorateurs de la Hammer. Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Dans les toutes premières images, il y a à gauche un bouquet de campanules. C'est ce jour-là que je suis tombé amoureux des campanules des Carpates. Bon. Et puis, j'ai vu donc le film en version française. parce qu'à l'époque, à Toulouse, on ne projetait que des versions françaises. Les films restaient à l'affiche une semaine, et dans les grandes villes de province, on ne les voyait qu'en version française. Moi, j'ai découvert tous les grands John Ford et tous les grands Fellini en écoutant John Wayne et Marcello Mastroianni parler français. Bon. En 1968, Dracula et les femmes de Freddy Francis. Alors celui-là, à Toulouse, est sorti au Rio. Le Rio, ça se voulait nettement plus intellectuel que le Zigzag. C'était pas vraiment un cinéma d'art et d'essai, mais enfin, on y projetait à tour de bras, on y reprenait chaque année les Rennais, Marienbad, Hiroshima, mon amour, et ainsi de suite. Et puis, il y a eu, je crois, une importante campagne de promotion en France pour le film, peut-être parce qu'on changeait de distributeur. Et, Le Cauchemar, c'est la Universal. Presse des Ténèbres, c'est la Fox. Et là, c'est le premier distribué par la Warner. Et donc, c'est peut-être pour ça que c'est sorti dans une salle un peu plus huppée. Et à vous dire franchement, c'est celui que je préfère de la série. Des sept interprétations de Christopher Lee. Du personnage de Dracula, c'est de loin celle qui me plaît le mieux. C'est le film. Bon, d'abord, j'aime beaucoup Freddy Francis comme metteur en scène, d'une manière générale, même comme chef opérateur aussi. Mais ensuite, j'ai bien aimé dans le scénario toute l'ambiguïté. L'ambiguïté qui renvoie un peu Terence Fisher et les deux films précédents au niveau Veillée des Chaumières. Là, il y a des trucs qui plaisent. Il y a un personnage de prêtre dans Dracula et les femmes, un personnage de prêtre qui bascule, qui est tout à fait passionnant. Et puis il y a le réveil de Dracula, il est dans un glacier, donc il y a une bavure, alors la glace fond, il se réveille. Et je trouve que le réveil de Dracula, c'est vraiment un sommet pour l'acteur qu'est Christopher Lee. Je me souviens que je suis allé le voir 3 fois dans la semaine, le film, en version française évidemment, et j'aurais bien préféré qu'on traduise à la lettre le titre original, parce que le titre original, c'est quand même Dracula a jailli de la tombe. C'est beaucoup mieux. Donc ça, c'était 1968. Le suivant dans les productions de la Hammer, c'est Les cicatrices de Dracula, c'est de Roy Wurmbacher. Et toujours les aléas de la distribution. Celui-là n'a jamais été projeté à Toulouse, dans une salle. Aucun directeur n'en a voulu. Je ne l'ai vu beaucoup plus tard, 20 ans plus tard, qu'à la Cinémathèque. Alors, la Cinémathèque à Toulouse, c'est un endroit où on pense le cinéma sérieusement. Un jour, on a projeté à la Cinémathèque, où j'y étais, Notre pain quotidien de King Vidor. Il n'avait trouvé qu'une copie originale sans sous-titres. Alors, il y a des gens, quand même, qui ont dit, bah, nous, on ne parle pas l'anglais, et encore moins l'américain. Et le gars qui présentait, c'était Raymond Bord, leur a répondu, il n'y a pas besoin de comprendre les dialogues pour admirer les chefs-d'œuvre. Bon, c'est dire que la Cinémathèque, c'est un endroit sérieux, et les cicatrices de Dracula, ils l'ont projeté en version française. Bon, ça, je trouve que le film m'a pas emballé. Bon, Roy Wanbaker, c'est par moments un bon faiseur, mais pas plus. Dans ce que j'ai lu sur les films, je vois que certains critiques font grand cas des séquences chauve-souris, de l'escalade du mur que Phil nous a montré ce matin par Christopher Lee. Moi, ça m'a pas emballé, je vous le dis, en spectateur. Et donc, ça, c'était à l'origine 1970. Et la même année, la Hammer a produit en français Une messe pour Dracula, de Peter Sasdi. Alors celui-là, il est pas mal aussi. Il est pas mal. Je le mets juste après Dracula et les femmes. Là aussi, on peut regretter qu'on n'ait pas traduit à la lettre le titre original. Il était donc Déguster le sang de Dracula. Ah, ça percute. Et moi, je l'ai aimé, Une messe pour Dracula. Parce que finalement, ce n'est pas tellement un film de vampire. Christopher Lee n'en apparaît qu'à la fin. Il fait le boulot, sans plus. C'est un film sur certains milieux victoriens. Des milieux qu'on évoque peut-être à propos des rapports entre Bram Stoker et Henry Irving. C'est un film sur certains milieux victoriens qui, là, se livreraient, pratiqueraient des messes noires. Et il y a quelques séquences qui sont magnifiques, toujours à cause du travail des décorateurs et des costumiers. Il y a en particulier un personnage de l'ordre décadent qui porte un grand mouchoir, un mouchoir énorme, qui est accroché à sa bague, au petit doigt. Et là, l'acteur, je ne sais pas qui c'est, fait de grands mouvements avec ce mouchoir. C'est superbe. Et puis Christopher Lee arrive à la fin du film. Alors, il y a la lumière. Bon, au bon moment, paf, plus de Christopher Lee, plus de Dracula, jusqu'au suivant. Et le suivant, si on garde l'ordre chronologique, ça n'est pas un film de la Hammer. C'est celui de Jésus Franco. Alors, j'aime autant vous dire que celui-là, on l'attendait. On l'attendait. D'abord, parce qu'on nous racontait de partout que ça allait être enfin une adaptation du roman à peu près à la lettre, tout le monde disait « Vous verrez enfin Christopher Lee avec des moustaches ». Pour la première fois à l'écran, Christopher Lee avec des moustaches. Puis il faut bien dire que savoir que c'était du Jésus Franco, ça titillait le gorée qui sommeille. Hein. Je disais, là, étant donné le bonhomme, alors dans la presse toulousaine, il y avait des allusions, un gars qui s'appelle Jésus Franco, vous pensez, bon. Et puis bon, on connaissait le bonhomme. Et ce film n'est pas sorti au Zigzag, il est sorti au Royal. Rassurez-vous, le Royal, c'était le concurrent du Zigzag. Ils étaient deux sur un certain créneau, et là, c'est le Royal qui a eu le truc. Bon, le film, là aussi, il m'a semblé que Christopher Lee faisait le boulot, pas plus. Herbert Lom, en Van Helsing, Patrice en parlait tout à l'heure, c'est quand même pas Peter Cushing. Hein. Bon, il y a la grande séquence, le personnage d'Enfield est joué par Klaus Kinski. Alors, vous imaginez ce que ça peut donner. La rumeur prétend, c'est mon fils qui m'a dit ça à partir de je ne sais plus quel site spécialisé, que Klaus Kinski ne savait pas qu'il tournait dans un film de vampire. On ne lui avait pas dit, il ne voulait pas. Donc, on lui a dit la séquence, c'est pour un autre film, un polar, un film, etc. Et puis après, on l'a mise là-dedans. Mais, bon, il y a une curiosité. Quand on voit que bon, le metteur en scène est hispanique, qu'il a sa réputation sulfureuse, quand on voit que c'est une production franco-américano-italo-sildavienne, on se demande qu'est-ce que va devenir là-dedans l'univers de la Hammer. Quoi. C'est vrai que c'est intéressant, mais bon, ça reste du Jésus Franco. Alors, ensuite, toujours en gardant l'ordre chronologique, il y a eu il y a eu les deux derniers Dracula, ceux de Alan Gibson. Bon, ceux-là aussi, je les ai vus parce qu'un fan, quelquefois, a des devoirs, n'est-ce pas ? Des obligations. Quand on a vu tous les autres et qu'a priori on aime ça, il faut aussi aller là. Mais c'est un peu dur. Bon, c'est un peu dur. D'autant plus que le Dracula 73, il est sorti dans une salle qui, à l'époque, s'appelait Les Variétés, qui est maintenant une salle UGC. Et dans ces années-là, les variétés se prenaient pour le Grand Rex à Paris. C'est-à-dire qu'il y avait un minuit du fantastique le samedi. Alors vous imaginez ce que ça peut donner, les minuits du fantastique en version province. Bon. Et surtout en version française. Bon, puis on continue de défiler. Alors après les deux Dracula canadiens, bon, il reste, Marc m'a parlé aussi tout à l'heure, Dracula, père et fils. C'est la dernière interprétation de Christopher Lee. Alors, Marc a dit beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce qu'un directeur de salle et une station de radio m'ont pris à l'époque pour un para Van Helsing. Je me suis retrouvé à la présentation du film à l'avant-première, à le présenter. On l'avait demandé, bon, je suis venu. Et à côté de Patrick Covin. Et là, figurez-vous, c'est certainement ma plus belle anecdote, et sans que je m'en rende compte, Patrick Covin m'a vampirisé. Dans le film, on n'en parle plus. Patrick Covin m'a vampirisé. Non, parce qu'après après la projection, bon, il y a eu un pot, on a discuté de petites affaires, on a parlé. Et puis on s'est dit au revoir, on est un bon copain, peut-être qu'on se retrouvera un jour. Et quelques années plus tard, il y a un de mes collègues qui arrive en me disant « Tu sais que mon épouse, est en train de faire étudier, mon épouse est prof de français dans le secondaire, elle est en train de faire étudier à ses élèves, des gamins de quatrième, un roman de Patrick Cauvin qui s'appelle Hautepierre. Il dit, ah bon, oui, je sais que ton épouse, elle est prof de français, etc. Je sais qu'il y a Patrick Cauvin. Je ne savais pas qu'il avait écrit un truc qui s'appelle Hautepierre, qui est une histoire de mésaventée. Mais, me dit ce collègue, mon épouse a ramené le bouquin à la maison. Elle m'a dit, t'as vu, à telle page, c'est Yves. J'étais dans le roman. Et je ne le savais pas. Alors, puis j'étais vraiment dans le roman. Hein. C'est-à-dire que le personnage qui s'appelle Rovitz, on commence par le présenter pour un petit noirot râleur. Bon, de toute évidence, j'étais dans le roman. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, mon pauvre, il faut que tu reprennes contact avec Patrick Cauvin. Tu lui poses des questions quand même. Et avant de prendre contact, je me suis un peu renseigné et je suis tombé sur une interview que Patrick Cauvin avait donnée à Pilote, un peu après la sortie du film, quelques mois après, en 1977. Et dans cette interview, il disait, oui, j'ai rencontré un gars à Toulouse, là, pour la présentation du film, alors, petit noirot, quoi, prof de maths, qui s'intéresse à des trucs, il m'a raconté des histoires de maisons hantées, et disait Patrick Cauvin, j'ai fait une fiche, j'ai mis ça de côté. Alors, du coup, je n'ai pas écrit à Patrick Cauvin, parce que j'avais ma réponse, forcément. Bon, en tout cas, c'est la dernière fois que donc Christopher Lee.
Il avait eu une histoire qu'il voulait faire un film après.
Alors Hautepierre a été adapté à la télévision. C'est vrai, j'allais oublier de le dire. A été adapté à la télévision. Et là, alors j'ai repris contact pour moi avec Patrick Cauvin. J'ai dit, écoutez, je veux jouer mon propre rôle. on ne discutera pas sur le cachet. Mais après un coup comme ça, c'est un personnage tout à fait secondaire. Je veux le jouer moi-même. Personne ne sera aussi naturel que moi. Bon. Donc, Patrick Cauvin m'a dit OK. Et puis, comme c'était vraiment un personnage tout à fait secondaire, il a été coupé à la production. Donc, je ne l'ai jamais tourné. Mais enfin, je reste candidat si un jour il y a une autre adaptation du roman. L'ennuyeux, c'est que je pense qu'à l'heure actuelle, je suis toujours aussi petit et toujours aussi râleur, mais je suis beaucoup moins de moiron. Parce qu'il y a 25 ans, il y a des teinturiers. Bon, alors, ce que vous ne savez peut-être pas, parce que là, aucun de mes prédécesseurs aujourd'hui n'en a parlé, c'est que Christopher Lee, un peu comme Bela Lugosi à son époque, a joué d'autres rôles de vampires. Déjà, dans Dracula, père et fils, dans le film, on ne dit pas explicitement qu'il s'agit du comte Dracula. Bon, certes, il arrive de Roumanie, on a emprunté le costume à la Hammer, ça, surtout la cape, c'est évident, mais le personnage n'est pas vraiment appelé Dracula. Mais alors, Christopher Lee l'a joué. Alors, dans un navet que je n'ai pas vu, un film de Steno qui s'appelle « Les temps sont durs pour les vampires ». Donc, on comprend que c'est un navet dès le titre. Alors, je ne l'ai pas vu parce que je connaissais un peu Steno pour d'autres de ses réalisations et vraiment, je n'ai pas eu envie. Et donc, je sais que le personnage principal, que c'est un film comique, le personnage principal est joué par Renato Rachel, qui à l'époque avait... un acteur italien célèbre, et que Christopher Lee joue un rôle de vampire. Le nom du personnage, je l'ai écrit pour être sûr, c'est Roderico de Frankenstein. T-E-N. C'est pas Frankenstein, mais pas loin. Et puis surtout, Christopher Lee a joué un personnage de vampire dans une espèce de truc d'un dénommé Camillo Mastrocinque, qui avait tellement de son nom qu'il signait Thomas Miller. Et c'est un film en noir et blanc qui est très vaguement inspiré par Carmilla. Ça doit quelque chose à Carmilla. Et alors là, c'est un film fauché de chez Fauché. Je ne sais pas comment ils ont dû faire pour payer Christopher Lee, parce que Christopher Lee, il coûtait cher. Patrick Cauvin m'avait raconté à l'époque que pour le tournage de Dracula père et fils, on avait diminué le nombre de séjours de tournage parce qu'il touchait un cachet quotidien. Chaque soir, en sortant du plateau, il passait chez le comptable. Et donc, la production avait dit, bon, ça va, on va faire une semaine, et on ne veut pas le revoir lundi. Et là, donc, dans ce film de Thomas Miller, dont le titre français est La crypte du vampire, que j'ai vu au zigzag, et en version française. Alors là, il y a une séquence qui est fabuleuse au niveau trucage. C'est un truc comme même maintenant, chez Georges Lucas, ils n'en font pas. C'est le tonnerre sur le château du vampire, le tonnerre et l'orage. Alors, c'est fait comment ? Au montage, il y a une succession d'images, un montage très rapide, surexposé, sous-exposé, surexposé, sous-exposé. Alors, on fait défiler ça avec un bon coup de tonnerre sur la bande de son, et ça vous fait un effet d'éclair, c'est le cas de dire, du tonnerre de Dieu. Alors, là aussi, dans ce film-là, Christopher Lee fait le service, bon, vous l'avez vu dans les autres films, donc vous imaginez, il déploie toute sa taille, il fait un peu bouger la cape, il montre bien les canines, enfin, il a le regard de fauve, quoi. Il est draculesque dans un truc de Sheridan le fameux. Et bien, ce film-là, j'ai, figurez-vous, que j'ai réussi à le voir en version originale, et sans sous-titres. Et là, c'était à Londres, dans une salle où on pouvait fumer. Et en anglais, il s'appelait « L'horreur des Carmichael ». Je vous donne quand même le titre en français. Donc, si on fait le compte, Christopher Lee a joué Dracula 7 fois pour la Hammer, une fois pour Jésus Franco, ça fait 8. Bon, puis il y a « Les temps sont durs pour les vampires », « Dracula père et fils ». Et donc, si on veut « La crypte du vampire », ça fait en tout 10 fois. Donc,
tu n'as pas vu « Le vampire et son déviant » par Arène?
Ah si, au fait, je l'ai oublié, celui-là. Je l'ai oublié, celui-là, oui. Je l'ai carrément oublié en préparant mon topo. Tu as raison, Marc. Oui, donc ça fait 11 fois. Hein. Ça fait 11 fois. Mais il reste dans nos mémoires. Moi, Dracula père et fils, je n'ai pas aimé. C'est bon, quand tu nous passes une séquence tout à l'heure, Marc, une seule séquence, ça va. On se marre. Mais une heure et demie de film... C'est un peu long, c'est la pochade à la française, quoi, la comédie bien tournée pour public du samedi soir. Ça veut pas, mais bon, Christopher Lee a accepté de tourner en passant à la caisse chaque soir, mais mon Dieu, moi je lui pardonne à cause de Dracula et jaillit de sa tombe, à cause de son interprétation dans ce film-là, la manière dont Freddy Francis le met en scène, le dirige. Là, je lui aurais pardonné à Christopher Lee, même s'il avait joué Dracula contre Louis de Funès. Voilà, merci.